Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de l'économie, de la finance et du petit moral. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une semaine écoulée qui n'a pas été franchement positive, avec des tendances haussières sur les prix du gaz et du pétrole, ce qui pourrait à terme induire un ralentissement de la croissance économique mondiale. Bon, on n'y est pas encore, nous sommes simplement au mois de mars, mais tout de même, ce sont des éléments qui, à terme, hein, au fur et à mesure que l'année s'écoule, peuvent être tout à fait néfastes à la croissance mondiale, avec quasiment en conséquence une baisse des marchés boursiers qui ont chuté. Donc, en raison de l'incertitude économique mondiale, on a quand même le Dow Jones qui a perdu 3% cette semaine, avec toujours, et ça c'est terrible hein, parce que c'est quasiment maintenant toutes les semaines, on a ces augmentations de taux d'intérêt. Encore la réserve fédérale américaine qui a augmenté de 0,25%. Alors, c'est rien en soi, 0,25%, mais plus 0,20, plus 0,20, plus 0,20, plus 0,20 ou plus 0,50. À la fin, ça commence à faire beaucoup, ce qui fait que les affaires sont de plus en plus difficiles à conclure puisque l'argent pour les investissements est de plus en plus onéreux. Investissement, on continue d'en parler aujourd'hui avec notre invité Oudeif Hamziane, professeur d'économie, parfait connaisseur de l'économie marocaine et qui va analyser avec nous, pour nous, d'abord bonjour Oudeif Hamziane, merci d'être avec nous dans Economia. 45 milliards d'investissements prévus au Maroc avec une part importante d'investissements espagnols dans un contexte international qui est somme toute assez chahuté. On a le sentiment que le Maroc s'en sort plutôt bien.
Il faut rappeler qu'en fait, ce n'est pas un investissement immédiat pour les années à venir. C'est un investissement qui avait été énoncé au Maroc en 2022, lorsque on avait adopté la charte d'investissement qui avait été approuvée en 2022 et qui prévoit une dépense de 45 milliards d'euros publics pour moderniser le Maroc. Et qui touche pratiquement tous les secteurs à l'horizon 2050, faut-il le rappeler. Donc ce n'est pas un investissement sur 2 ans, 3 ans,
bien sûr,
mais c'est un investissement sur le long terme que le Maroc a adopté à partir du jour où il avait adopté une charte d'investissement pour justement encourager, disons, les capitaux étrangers et notamment des pays partenaires. Et l'Espagne, dorénavant, fait partie des partenaires privilégiés depuis notamment 2022, lorsque le chef de gouvernement espagnol s'est rallié à la proposition d'autonomie du Sahara marocain. C'était une occasion lorsqu'il a fait une visite, je me rappelle que c'était en février, mercredi 21 février, il a été reçu par le roi et lors d'une conférence de presse, il avait justement parlé de l'Espagne comme étant un pays qui peut justement, à travers ses entreprises publiques et privées, bénéficier de tous les marchés qui vont être lancés, qui d'abord par rapport à ces 45 millions,
Un milliard, bien sûr.
Mais certains sont déjà prévus, il y a quelques 5 milliards, lorsque le Maroc a été, avec l'Espagne et Portugal, retenu pour l'organisation de la Coupe du Monde, les choses s'accélèrent maintenant.
Bien sûr.
Il est prévu un investissement de 5 milliards pour la réflexion.
C'est énorme.
Ce qui concerne le transport ferroviaire, les hôtels, les terrains aussi, la mise à niveau des terrains et puis la construction du grand terrain de Casablanca. Donc voilà, et l'Espagne étant un partenaire privilégié compte profiter, disons, de cette manne pour que ces entreprises soient présentes dans les adjudications qui vont certainement être faites dans les mois qui viennent.
Parce que l'Espagne est un pays partenaire ancien du Maroc. C'est un pays qui... Enfin, la connaissance des deux pays mutuels, et on va dire qu'elle est quand même très qualitative du fait de l'histoire, et puis même aussi de ces dernières décennies, avec l'accélération que vous venez de mentionner, Oudeif Hamziane. Mais dans quelle mesure ça aide aussi à cette... à ce nouvel essor, dans quelle mesure ça aide aussi de se connaître depuis finalement aussi longtemps? Pourquoi ça peut être considéré comme étant un coefficient accélérateur d'affaires et de business?
Tu as tout à fait raison de dire que le Maroc et l'Espagne ont beaucoup changé ces dernières années. le contexte régional, global, la géopolitique est pour quelque chose. Et nous sommes passés, disons, d'un discours de concurrence à un discours de complémentarité, d'un discours de divergence à un discours de convergence des préférences. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que notre avenir, de par la géographie, de par l'histoire, est beaucoup plus lié et beaucoup plus...
imbriqué peut-être
important pour les deux pays, pour le développement à venir, que de rester dans la conflictualité. Donc voilà, et je crois que l'année 2022, depuis 10 ans, vous savez, depuis 10 ans, les échanges, malgré les différentes politiques ici et là, sur l'immigration, sur ce time Lilia, mais les deux pouvoirs centraux des deux pays ont toujours su ménager pour ne pas rentrer dans la conflictualité, dans l'affrontement, et cette position sage des deux pays a permis justement au développement économique de s'installer et aux échanges, notamment les importations, les exportations, le commerce extérieur s'est multiplié ces 10 dernières années par 5.
C'est énorme, c'est énorme, absolument.
Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Mmh. Vous savez que jusqu'à récemment, la France était le premier partenaire de par exemple, du Maroc en tant que fournisseur et client. Cette position a été maintenant dépassée.
Bien sûr, tout à fait.
Qu'on constitue maintenant le premier fournisseur et le premier client du Maroc. Et le Maroc, le Maroc est le premier client africain, en tout cas pour l'Espagne, le troisième hors Union européenne, le deuxième et le premier, ce sont les États-Unis et, je crois, la Grande-Bretagne. Ouais. Mais c'est vous dire que le Maroc, dans la sphère économique espagnole, constitue un partenaire incontournable.
Mais un partenaire pour les investissements, pour la transmission du savoir-faire, parce que c'est vrai que quand on regarde au niveau des pôles européens, les machines-outils, c'est quand même plutôt allemand, les start-up, tout ce qui est innovation, technologie, etc., c'est plutôt la France. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Espagnols ont à apporter au Maroc et quelles sont les spécificités de l'économie espagnole qui peuvent profiter au Royaume du Maroc ?
Alors, certains, beaucoup de gens croient que nous sommes encore dans cette relation commerciale qui est basée essentiellement sur des exportations de tomates du Maroc vers l'Espagne.
Oui, bien sûr, c'est un peu caricature, voilà. Vous avez raison.
Alors maintenant, ça a complètement changé, Maintenant, nous avons essentiellement une structure des exportations espagnoles vers le Maroc qui concerne les produits électriques, électroniques, évidemment l'énergie, parce qu'avec le gaz et le problème avec le pays voisin, donc maintenant nous importons de l'Espagne le gaz nécessaire pour faire marcher les usines, etc. Mais aussi il y a les composantes électroniques, un peu de textile, etc. Et dans l'autre sens, le Maroc aussi a diversifié ses exportations, notamment l'automobile, l'énergie. Le Maroc est maintenant est pionnier dans tout ce qui concerne l'énergie verte et en plus, évidemment, des produits de l'agriculture et de la pêche, les crustacés, etc., qui continuent à être envoyés en Espagne, et l'Espagne en demande, ils sont très compétitifs par rapport aux produits autochtones. Donc voilà, il y a une structure des importations et des exportations très diversifiée de part et d'autre qui permet de pérenniser ces relations et de les fortifier. Ajoutez à cela que depuis le Covid-19 et la perturbation des chaînes de valeur, maintenant les deux pays ont pris conscience que c'est une opportunité pour les entreprises et marocaines et espagnoles de développer sur place, parce que la proximité du Maroc de l'Espagne vers l'Europe et vers l'Afrique constitue de ces deux pays une plaque tournante qui permettra d'éviter les soubresauts, qui peuvent venir d'ici
bien
et
sûr,
là,
bien sûr, bien sûr.
À venir. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Covid et les problématiques de distribution et d'exportation et de transport des marchandises et des matières. La France avait d'ailleurs souffert pour les masques, et puis donc voilà. Je crois que c'est une occasion que les deux pays sont conscients et veulent disons, profité et exploité pour devenir un chaînon, une chaîne de valeur incontournable pour tout le pourtour, les pays du pourtour méditerranéen.
C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette économie très connectée dont on a déjà parlé avec vous à plusieurs reprises, Uday Fahmian, c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion, comment dire, qu'une relation commercial peut irradier au niveau de la sous-région nord ou de la sous-région sud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne, dans quelle mesure l'Espagne pourrait-elle profiter de la politique africaine du Maroc ? Concrètement, ça pourrait se passer comment ?
Elle peut profiter d'abord parce qu'il y a un constat qu'il faut rappeler. Et il faut rappeler que actuellement, au Maroc, il y a à peu près, il y a quelques 17 à 18 000 entreprises qui exportent vers le Maroc.
D'accord.
Et alors, il y a 1200 entreprises qui sont installées au Maroc, soit de manière comme filiale d'entreprises espagnoles, soit des entreprises avec des capitaux marocains étrangers où il y a une participation. Donc voilà, il y a 1200 entreprises. Alors, je dirais, autrement dit, le tissu entrepreneurial marocain est un tissu où l'Espagne prend ses aises et elle est là et elle peut profiter de toutes les stratégies que le Maroc adopte depuis un certain temps avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI qui a une vision stratégique très importante, très ambitieuse pour le Maroc, pour en faire une plaque tournante et un pays disons catalyseur du développement de l'Afrique et des pays sûrs. La dernière en date, c'est cette l'initiative du roi pour l'espace atlantique, pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, qui va permettre une transformation structurelle des économies de ces pays. Et je suis sûr que l'Espagne voudrait profiter de cette stratégie et être présente à travers ses entreprises, des investissements aussi, pourquoi pas, parce que au niveau des IDE, l'Espagne qui était cinquième est passée en troisième position maintenant, ne serait-ce que pour l'année 2022, je crois, c'est le dernier chiffre dont je dispose. Il y a eu quelques 2 milliards d'investissements espagnols. Donc c'est de vous dire qu'il y a quand même un intérêt particulier, une prise de conscience de l'Espagne, que le développement de l'Espagne, la prospérité de l'Espagne passe par celle du Maroc et vice-versa.
Mais juste, alors c'est une question un peu naïve, mais c'est juste pour bien comprendre les mécanismes qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment qu'il y a... Enfin, c'est pas un sentiment d'ailleurs, c'est une superposition. Il y a d'une part le Maroc et l'Union européenne, ça c'est une chose, et puis il y a l'autre strate qui est le Maroc et l'Espagne. Comment ça se passe ? Parce qu'on peut se dire aussi que peut-être d'un point de vue technique, pratique, ça ne doit pas être facile à gérer. Comment ça se passe finalement là ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on a un bureau avec deux dossiers posés dessus.
Oui, mais c'est pas du tout incompatible.
Non, mais bien sûr, c'est juste pour comprendre comment ça marche.
Oui, écoutez, c'est très simple. L'Espagne fait partie de l'Union européenne.
Oui.
Je l'ai précisé tout à l'heure, le Maroc n'est pas le premier partenaire de l'Espagne, si on considère l'Union européenne. L'Union européenne est de loin le partenaire principal, parce que l'Espagne fait partie de ce grand marché européen. Mais en dehors, nous savons qu'avec l'Union européenne, le Maroc a un statut privilégié. Et donc, il a de très bonnes relations avec l'Allemagne, avec la France, qui sont en train de revenir un peu à l'état normal depuis la visite du ministre des Affaires étrangères français. Séjourner au Maroc, et donc qui a dissipé un certain nombre de malentendus, et tant mieux, parce que on peut pas, l'histoire qui nous lie est beaucoup plus importante que le discorde qui se soulève ici et là. Donc voilà, alors je crois que le développement et l'intégration, disons, entre les deux économies Maroc et Espagne ne peut que être profitable pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je dirais. Donc ce n'est pas incompatible, ce n'est pas antinomique, c'est beaucoup plus intégré, c'est beaucoup plus complémentaire dans le développement de l'économie marocaine et de l'Union européenne et des relations, en tout cas commerciales, entre le Maroc et l'Union européenne, malgré de temps en temps des soubresauts ici et là.
On a le sentiment qu'il y a en fait un couloir de relations économiques on va dire, qui va Maroc, Espagne, France, donc qui ensuite va mordre sur l'Allemagne. Et puis ensuite, quand on va un peu plus vers l'Est, quand on va sur l'Algérie, sur la Libye, sur la Tunisie, ça monte comment? C'est-à-dire qu'on a un équivalent dans la relation entre l'Algérie avec l'Union européenne et les pays qui lui font face, hein, par exemple la France, ça peut être aussi l'Italie, etc. Est-ce que, parce que là, on a un peu comme le sentiment que sur la façade ouest, globalement, ça fonctionne, ça prospère. Sur la façade est, ça se passe comment?
Ben, ça ne se passe pas comme on aurait voulu,
Ah, c'est plus compliqué.
hein. Bien sûr, parce que vous savez, la situation que nous sommes en train de vivre maintenant et le développement que connaît le Maroc avec l'Europe et à travers l'Espagne aussi, depuis donc la reconnaissance de la position du Maroc, d'autonomie, de la position d'autonomie sur le Maroc. Nous avons gagné en termes économiques. Je prends par exemple pour les exportations une augmentation de pratiquement de 19% en 3 ans, les importations aussi vers les 10%, je parle du Maroc, vu du Maroc, de l'Espagne aussi. Mais imaginez que le Maghreb ou le Grand Maghreb avait fonctionné
Bien
aujourd'hui.
sûr, bien sûr.
Le problème du Sahara était maîtrisé par les pays riverains, par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Imaginez le développement et les gains en productivité, en richesse qu'on aurait pu engranger vis-à-vis de l'Europe et
Bien sûr, vous.
aussi bien pour nous que pour l'Europe. Malheureusement, ce différend qui est en train d'empoisonner les relations, il nous coûte en termes de PIB au moins 1 à 2%, aussi bien, aussi bien pour nous que
Oui,
pour
bien sûr, c'est beaucoup. Absolument.
Et donc voilà, maintenant, disons que la géopolitique nous impose cela et le Maroc ne va pas rester les bras croisés en attendant qu'un jour la renaissance du Grand Maghreb ou de l'Union maghrébine, il travaille, il fonctionne, il regarde l'avenir, il essaie de développer son économie, et il est ambitieux. Le passage, la Coupe du Monde, c'est une formidable occasion pour nous, pour nous pousser, pour mettre à niveau notre économie, aussi bien sur le plan
Bien sûr.
infrastructure, sur le plan aéroport. Le Maroc va acheter il y a 2 milliards pour l'équivalent de 150 wagons pour le TGV.
Oui, c'est absolument gigantesque. Non, mais les investissements sont absolument gigantesques, mais est-ce que, alors je sais que la réponse est oui, mais peut-être nous apporter des éléments plus détaillés, ou d'Aïfa Amzian. C'est vrai que c'est aussi un défi pour le Maroc, les investissements, la transparence sur les investissements, les feuilles de salaire, la sécurité sociale, la façon dont la société marocaine vise, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour la société marocaine, dans la vie de tous les jours, hein, d'avoir autant d'investissements. Ils sont, je veux dire, ça, à la fois, c'est une formidable bouffée d'oxygène, c'est quelque chose d'assez assez unique dans le pays d'ailleurs. Enfin, pour un pays, je pense que c'est aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, l'espace euro-méditerranéen. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui peuvent être sur ces projections d'investissement. Mais c'est vrai aussi que pour le Maroc, ça représente un défi, voilà, d'être à la hauteur de ces sommes qui sont quand même assez colossales.
Bah oui, justement, écoutez, pour moi, l'arrimage à l'Europe, à travers l'Espagne, la France évidemment, et d'autres pays, ne peut être qu'un catalyseur de la mise à niveau de notre économie, mais aussi de notre sécurité sociale, de notre
Bien
cause de
sûr.
Travail. Et puis, le Maroc n'a pas pensé simplement à des investissements colossaux comme ça. Parallèlement, au niveau interne, le grand chantier de la couverture sociale, de la généralisation de la couverture sociale, qui a été initiée par Sa Majesté, est très importante. Évidemment, il y a des résistances ici et là. Mais disons que la machine est en route maintenant. Elle ne peut pas revenir en arrière. Tout cela, tous ces réformes, la sécurité sociale, la généralisation, la réforme fiscale aussi, tout cela va permettre d'accompagner et d'asseoir et asseoir de manière durable et certaine ce développement qui est projeté pour l'avenir. Voilà. Et puis, le fait qu'un certain nombre de chantiers sont pris en charge par des entreprises étrangères
Bien
qui
sûr.
sont ils ont une expérience, ils sont respectueux des droits de l'homme, du droit social, etc., ne va que être mettre la barre haute pour les entreprises nationales, pour se mettre à niveau, et donc c'est pour pouvoir aussi tirer profit, hein, parce que ce sont des appels d'offres qui vont être faits pour un certain nombre de projets. Eh bien, les Marocains, maintenant, ils ont une certaine expérience acquise, notamment vis-à-vis, en se projetant dans l'Afrique. Il y a énormément de grandes entreprises marocaines qui opèrent en Afrique et qui ont appris de l'expérience. Et donc, cela va maintenant être bénéfique pour le Maroc et va permettre justement de notre tissu économique, de notre l'entrepreneur marocain avec un grand E, d'être à la hauteur et d'être un entrepreneur aux standards mondiaux. Et c'est très, très important.
En vous écoutant parler, Oudaïfa Hamziane, je pense à ce qu'était le Maroc en 1999, quand on voit ce qui s'est passé en l'espace de ces plus de deux décennies, on se dit que c'est quand même assez, assez incroyable.
Absolument.
Et souvent, d'ailleurs, vous savez, Oudaïfa Hamziane, souvent, je trouve qu'on l'oublie. Ça nous semble acquis, ça nous semble naturel, mais il faut quand même voir ce qui a été fait finalement très rapidement.
Regardez, nous sommes dans une région, la région Tangier-Tétouan, jusqu'en l'an 2000, sous l'ancien règne, c'était une région quand même qui connaissait beaucoup de problèmes.
Bien sûr.
Il faut dire les choses. Etc. Il y avait aussi de la contrebande, des métiers qui n'étaient pas très, très, très louches, quoi.
Bien sûr.
L'économie de la région était une économie de rente. Maintenant, le bouleversement qu'a connu le Nord depuis, avec la volonté du roi de faire de cette région la porte de l'Europe, on ne fait pas de différence sur le plan infrastructurel. J'entends, bien sûr, les autoroutes, les routes, le port, l'immense port méditerranéen, qui est maintenant le 9e port à l'échelle mondiale, qui concurrence, qui a dépassé celui d'Algérie, démontre que, justement, en 20 ans, les choses ont changé. Et je suis heureux d'avoir assisté à cela.
Bien sûr, la mutation est énorme, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Et dernier élément aujourd'hui, quels sont finalement, quand on regarde sur la zone, sur la sous-région, les concurrents du Maroc finalement en termes d'investissement? Si demain vous êtes en Europe et vous regardez la zone Maghreb, finalement il y a deux pays qui offrent cet environnement.
Évidemment, il y a des concurrents parce que l'Afrique qui compte. Oui. Il n'y a pas des concurrents pour le Maroc au Maroc.
Sur le Maghreb, il n'y a pas finalement.
C'est une ambition africaine.
Ouais.
Et donc, il y a des concurrents qui sont intelligents. L'Espagne l'a comprise.
D'accord, je comprends.
Plus tard, mais elle va. Et les choses sont. Le Maroc est une plaque, c'est un passage obligé pour justement maintenant pénétrer et convoiter et exploiter, j'allais dire, mais participer au développement de l'Afrique. Il y a un potentiel énorme. Je parlerai de complémentarité entre l'Union européenne, le Maroc. Le Maroc est arrimé à l'Europe et l'Europe, et avec le Maroc, il y a une tradition ancestrale de développement mutuel complémentaire. Maintenant, peut-être, alors il y a d'autres pays, par exemple en Europe, mais c'est surtout la Turquie qui est aussi intéressée, nous le savons, qui est en train de pénétrer un peu le marché africain d'une manière ou d'une autre, à travers des investissements, à travers des chaînes de production, avec le commerce aussi. C'est un concurrent sérieux, il faut le prendre. La concurrence est de bonne.
Elle est saine, bien sûr, absolument. Il y a
du Golfe, les Émirats aussi, qui s'intéressent un peu, peut-être pas simplement à l'économie, mais aussi à l'aspect militaire, à l'aspect, disons, des matières premières, parce que l'Afrique est un continent encore vierge, n'est pas exploité comme il faut. Et il y a des matières, il engorge énormément de matières, pas très classiques, je ne parle pas du gaz pétrole, mais il y a de l'uranium, et cobalt, et j'en passe, l'or, les diamants. Donc tout cela intéressent évidemment un certain nombre de pays, mais simplement les concurrents, il faut qu'ils comprennent, et le Maroc l'a compris, c'est pourquoi il est accepté dans, en Afrique et dans l'Union. Il n'a pas intégré l'Afrique comme ça, enfin l'Union africaine comme ça, il a intégré avec un plébiscite de tous les pays amis, parce que le Maroc est toujours vient avec une idée de co-développement et non pas avec une idée hautaine de venir apprendre à ces gens-là que, comment se fait le développement. Le développement se fait à deux et non pas de manière unilatérale. Et forcément, quand vous avez cette culture, cette position, vous ne pouvez qu'avoir l'adhésion de ces pays à votre projet pour eux. Voilà.
Merci Oudaïfa Mziane pour l'ensemble de ces explications. On reste au Maroc avec cette semaine la journée mondiale de l'eau, dont l'enjeu est absolument essentiel au Maroc, puisqu'on est face à un déficit pluviométrique évalué à 70% par rapport aux moyennes habituelles. Donc le Maroc diversifie ses sources d'approvisionnement et son apport en eau. On va en parler avec Ouriat Aziz Sadek, qui est avocate, présidente de Co-Alma, également gouverneur au Conseil mondial de l'eau. Ouriat Aziz Sadek fait le point sur cette orientation, l'une des orientations qui a été choisie par le Royaume du Maroc, à savoir le dessalement de l'eau de mer.
Le dessalement de l'eau de mer, bon, c'est une solution qui a été quand même évitée pendant longtemps parce que le coût était élevé et parce qu'il fallait avoir du pétrole. Aujourd'hui, le Maroc, et ça c'est quelque chose qu'on nous reconnaît, le Maroc a beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Et donc aujourd'hui, on combine le dessalement avec l'usage des énergies renouvelables et donc le prix a baissé. Alors, la valeur de cette technologie, c'est que nous avons 3500 km de côte et que nous avons la possibilité donc d'avoir accès au littoral et d'avoir accès à l'eau de mer pour pourvoir et combler le déficit en pluviométrie et augmenter l'offre pour la population ou pour les activités économiques.
Ouriat Aziz Sadek, merci pour l'ensemble de ces explications qui nous permettent de mieux comprendre ce défi du dessalement de l'eau de mer au Maroc. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous hebdomadaire. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.